Vous êtes bien sur Radio Orient, l'invité de Pluriel est le président du département de la Seine-Saint-Denis. Bonjour Stéphane Troussel.
Bonjour.
La France suffoque, hein, vous avez mis en place une série de mesures, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Cette nouvelle canicule met en lumière les inégalités sociales. Vous présidez le département le plus pauvre de France, le département métropolitain. Plus d'un habitant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Ce sont les personnes les plus précaires qui souffrent le plus de cette canicule. Quelles sont les mesures immédiates prises pour ces personnes dans votre département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel?
D'abord, il faut dire quand même, je veux répéter effectivement que ces phénomènes et la canicule, elle ne frappe pas tout le monde de la même façon. Et bien évidemment que quand on est un territoire très dense, très urbanisé, populaire, ça frappe plus fort, si j'ose dire, hein. Et c'est pas seulement un phénomène climatique, c'est un révélateur des inégalités sociales. Et donc le rôle de la puissance publique, et en tout cas c'est comme ça aussi que je conçois celui du département, c'est d'être là précisément pour celles et ceux qui en sont les plus exposés.
Alors, et justement, voilà, précisément, quelles sont les mesures prises depuis le début de cette canicule?
Exactement. Alors chacun, bien évidemment, chacune des collectivités notamment a des responsabilités dans différents secteurs. Le département, s'agissant par exemple des collèges, mais aussi des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes les plus vulnérables. Sur ces différents sujets, par exemple, face à cet épisode sans précédent, on a le devoir de se mobiliser. C'est ce que fait le département. Je vous parlais des collèges, hein, on livre entre la semaine dernière et la fin de cette semaine 2000 ventilateurs dans les collèges. C'est concret, c'est immédiat, et notamment en fin de semaine, les élèves vont passer le brevet des collèges. Il faut qu'ils puissent le faire dans des salles qui sont aérées, ventilées, pour pouvoir participer aux épreuves. On s'est aussi inspiré de ce qu'on a fait notamment pendant le Covid, vis-à-vis des populations dont on a la charge, aller vers les gens. Hein, par exemple, on vient d'adresser à l'ensemble de nos bénéficiaires des aides, personnes âgées, personnes en situation de handicap, 30 000 bénéficiaires de ces aides, un courrier sur l'ensemble des outils, des contacts de prévention, d'information.
Davantage de solidarité, hein, c'est ce que l'on comprend entre les différents habitants. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, qui parfois vivent dans des logements mal isolés, est-ce qu'il y a des mesures concrètes à mettre en place?
Sur la mauvaise isolation des logements, c'est tout le retard qui a été accumulé dans notre pays sur le plan massif de rénovation thermique des logements sociaux ou des copropriétés dégradées. Le président de la République avait promis un plan ambitieux sur ces questions-là. Ce que je constate, c'est que les aides en direction des collectivités locales ou des bailleurs ou des propriétaires modestes ne cessent de se réduire. Hein, et donc ça, c'est une. On repousse sans cesse dans notre pays la nécessité de d'atténuer et d'adapter. Et donc, à force de repousser sans cesse, eh bien, on est confronté à ce type d'épisode sans en être suffisamment préparé.
Et pour les personnes les plus précaires, est-ce que vous, en tant que président de la Seine-Saint-Denis, vous avez des prérogatives?
Les prérogatives que nous avons, c'est dans le cadre de nos aides sociales pour soutenir les gens quand ils sont en difficulté et toutes les aides légales que un département est amené à poursuivre. Et d'ailleurs, en dépit de ces épisodes climatiques extrêmes, l'ensemble de nos services sociaux s'adapte pour pouvoir continuer, bien évidemment, d'accueillir les gens, alors même que parfois il y a des réductions d'activité, soit liées aux locaux, soit liées à l'indisponibilité aussi de nos propres agents quand, par exemple, les établissements scolaires ne fonctionnent pas. Et c'est en cela que je vous dis, finalement, on s'est aussi organisé un peu comme on l'a été pendant le Covid pour maintenir de l'activité et pouvoir être toujours disponible pour les gens les plus vulnérables.
Mais là, on l'entend, hein, vous parlez de continuité et non pas de renforcement pendant cette période très sensible pour les personnes les plus pauvres financièrement.
Le département, c'est pas la collectivité la plus organisée en matière de proximité. Ce sont souvent les communes qui ont la connaissance la plus fine des publics les plus en difficulté. Et donc les communes, aux côtés du département, aux côtés des services de l'État, activent ces dispositifs, y compris les systèmes de rappel téléphonique. Le département, je vous ai dit, s'est adressé aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap à travers des courriers, mais on va réactiver notre plateforme d'appel pour justement contacter individuellement les gens. Je sais que les communes font la même chose avec leur fichier canicule, mais qui concerne là encore plutôt les personnes âgées. Et puis, il y a tous les dispositifs, notamment de maraude, pour les personnes sans abri ou les personnes les plus en difficulté.
Oui, il est important de souligner que les personnes qui n'ont pas de toit, les personnes sans abri meurent davantage l'été que l'hiver, hein, malgré une idée reçue qui laisserait penser le contraire.
Exactement, et c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, et le président de la République avait promis dans ce domaine-là aussi un plan ambitieux pour les personnes sans abri face aux vagues de chaleur. La réalité, c'est qu'on en attend encore la traduction concrète. Et vous l'avez dit, quand il fait 40 degrés à l'ombre et qu'on n'a pas de toit, la canicule, elle tue plus encore que dans d'autres périodes. Et donc, la question des places d'hébergement d'urgence, ouvertes systématiquement et sans condition, y compris donc, il ne faut pas seulement imaginer ce type de démarche uniquement dans les périodes de grand froid, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a nécessité d'activer ce type de démarche pendant les épisodes rouges des canicules au moins.
Qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement aujourd'hui ?
À l'évidence, on a besoin de développer toutes les places et d'augmenter encore les places d'hébergement d'urgence, parce que ils sont régulièrement saturés, et puis il y a un certain nombre de personnes qu'il faut mettre à l'abri en ce moment dans des places d'hébergement d'urgence beaucoup plus nombreuses, parce que, encore une fois, la canicule, elle tue plus pendant cette période-là.
Il y a urgence, hein, c'est ce que vous dites, on le comprend. Il y a aujourd'hui un débat sur davantage ou non de climatisation, notamment dans les écoles. Quelle est votre position, Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis, sur ce sujet ?
Non, mais vous savez, par exemple, dans tous les établissements, personnes en situation de handicap, personnes âgées, depuis les grandes canicules qui sont intervenues, soit 2003, soit 2019, à l'occasion des projets de rénovation, il peut y avoir une salle climatisée. C'est pareil, notamment dans les crèches, à chaque fois qu'il y a des travaux de rénovation, c'est une démarche qui est poursuivie. Mais il ne faudrait pas que l'identification d'une pièce climatisée dans les équipements publics soit, comment dirais-je, une manière de repousser toujours l'isolation, les changements de mode de chauffage, le changement des huisseries, des vitres, etc. Donc, moi, je n'ai bien évidemment que quand on est face à un certain nombre de grandes difficultés, on distribue des ventilateurs, on distribue des climatiseurs, on climatise une pièce, mais ce dont on a besoin, c'est de comprendre que cette année 2026, qui sera vraisemblablement de fait pour chacun d'entre nous, la dernière année la plus fraîche de notre vie. Parce que ce qu'on va constater l'année prochaine, puis la suivante, puis encore la suivante, c'est que les températures vont continuer de s'élever. Et donc, on peut se dire qu'on va mettre des climatiseurs partout, mais d'abord, ils contribuent quand même aussi par les systèmes de refroidissement à réchauffer l'atmosphère. Et donc, on a surtout besoin, enfin, de faire la grande bifurcation écologique dont notre pays a besoin.
Et est-ce que votre département, la Seine-Saint-Denis, est suffisamment végétalisé ?
Il faut bien évidemment absolument continuer. Pourquoi croyez-vous que quand on fait nos projets de rénovation de routes départementales, on essaye de justement rendre compatibles tous les usages, à la fois ceux des piétons, à la fois ceux des cyclistes, à la fois ceux des automobiles et des transports collectifs, mais avec des trottoirs plus larges et largement végétalisés pour s'adapter à ce réchauffement climatique. Et il faut se dire les choses, hein. Dans un département dense, urbanisé, mais qui va aussi avoir des transports collectifs qui se développent, la question du partage de l'espace public avec une place plus grande pour les piétons, les vélos, les bus, ça nécessite de faire des choix si on veut justement que sur les trottoirs, il y ait de la place pour une végétalisation plus importante.
Les enseignements de la canicule meurtrière de 2003 ont-ils été tirés ?
Je crois que collectivement, nous y sommes un peu mieux préparés. Il y a notamment dans les établissements pour personnes âgées, dépendantes, qu'il s'agisse des EHPAD ou des résidences autonomie, je crois qu'on a progressé, y compris avec les systèmes d'alerte, avec les systèmes d'information, notamment des publics les plus fragiles, avec des messages de prévention généralisés. Mais encore une fois, je crois qu'on est bien loin du compte, parce que cette canicule, cette année, elle arrive Pluto, elle est encore plus intense que les précédentes et elle dure. Et le sujet, c'est que l'été n'est pas terminé et que par ailleurs, on peut d'ores et déjà se dire que l'année prochaine, ça interviendra encore plus précocement.
Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis, un drame qui émeut la France entière, hein, le drame Liana, du prénom de cette très jeune fille dont la mort a bouleversé le pays, provoqué une vague d'émotions bien au-delà du seul fait divers. Votre département a adopté un vœu en soutien à la loi intégrale portée par la députée socialiste Céline Thiébaut, la loi de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Cette loi intégrale, c'est une réponse suffisante à ce qui a été dévoilé, si je puis dire, une forme de couvercle a été levée suite à cette affaire Liana.
D'abord, ça fait longtemps que un certain nombre de militants, de militantes, d'acteurs associatifs, de responsables politiques réclament une grande loi contre les violences sexuelles et sexistes. Et le drame avec la disparition dans des conditions tragiques de la petite Liana, renforce la nécessité du vote de cette loi intégrale, d'autant plus qu'a été rendu le rapport mené par les inspections générales de la gendarmerie et de la justice.
C'était lundi dernier, absolument.
Il a été assez inquiétant et il est sans ambiguïté sur un certain nombre de faits, de cumuls de pertes de temps, une absence de suivi dans les procédures qui visaient Jérôme Barella. Et donc ça porte atteinte à nos institutions et dans la chaîne judiciaire qui est de fait plus que jamais fragilisée. Cumul de perte de temps, absence de suivi, urgence pas prise en compte. Et donc, à l'évidence, il y a un problème dans la chaîne de protection, comme l'a dit d'ailleurs lui-même le Premier ministre. Et derrière tout ça, il y a petite fille morte, une famille dévastée, une responsabilité collective qu'il ne faut pas esquiver. Et donc, 20 ans après, Liana vient rappeler avec une violence insupportable que les demi-mesures, les plans qui s'empilent, ça ne suffit pas. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que le département, qui lui-même, dès 2002, a mis en place le premier observatoire départemental des violences faites aux femmes, nous avons voté ce vœu pour que le gouvernement inscrive sans attendre à l'agenda parlementaire cette loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes.
Les violences sexuelles faites aux enfants, 160 000 chaque année. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a demandé l'examen de 70 000 plaintes en souffrance. Alors, c'est un objectif qui semble difficile à réaliser, mais cela a peut-être le mérite au moins d'accélérer les choses, non ?
Oui, tout ce qui pourra être fait pour aller dans ce sens-là est absolument indispensable, mais on voit bien qu'il ne faut pas que ce soit seulement les mesures actuelles. Il faut aller beaucoup plus loin et avoir une action publique rénovée, amplifiée dans la durée, avec des engagements pluriannuels sur les financements nécessaires. Parce que j'ai entendu le président de la République qui disait que c'est pas une question de moyens. Eh bien si, c'est aussi une question de moyens. Quand l'Espagne a réussi à réduire de manière drastique le nombre de féminicides, c'est aussi parce qu'elle y a consacré des moyens beaucoup plus importants dans la durée.
Et c'est aussi une question d'écoute, celle de la parole des enfants qui, pour le moment, vu les chiffres, n'est pas écoutée. Bien plus de la moitié des plaintes ne sont pas suivies d'effet. Des plaintes liées à des agressions sexuelles sur des enfants.
Exactement. Mais c'est moins que la parole aujourd'hui n'est pas écoutée, c'est surtout qu'elle n'est pas entendue et qu'elle n'est pas suivie des faits, parce que on voit bien à quel point de plus en plus la parole elle est écoutée. Enfin, il y a des espaces de parole, mais encore faut-il qu'ensuite ces paroles soient prises en compte, entendues, suivies des faits. Et donc c'est plutôt ça le sujet.
Est-ce que cette mobilisation, le tribunal judiciaire de Bobigny mobilise toutes ses forces pour traiter les dossiers de mineurs victimes de violences sexistes et sexuelles. L'objectif, c'est de prioriser, je crois, les 3000 dossiers sous enquête policière. Cette mobilisation risque-t-elle de se faire au détriment d'autres affaires ?
Enfin, moi, je pense que à la fois la présidente du tribunal comme le procureur ont déterminé des priorités. Et on voit bien que là, de toute façon, c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que bien évidemment, il faut traiter ces situations dans l'urgence, mais il faut un engagement dans la durée de l'ensemble de la puissance publique pour que, à travers le vote de cette loi intégrale, eh bien, ce ne soit pas un texte voté sous le coup de l'émotion immense et bien légitime dans l'ensemble du pays, mais que ce soit un engagement collectif. On va avoir une élection présidentielle l'année prochaine. Il faut que cette question de la protection de l'enfance, parce que vous avez rappelé ce chiffre insupportable de 160 000, eh bien que ce soit une cause nationale pour le pays tout entier, avec des engagements dans la durée qui dépassent telle ou telle majorité politique au Parlement.
Il ne faut pas tourner la page cet été, il faut que ce soit un sujet central de cette présidentielle 2027.
Oui, je le crois, il y en a bien d'autres, mais il y a celui-ci aussi, parce que ça fait encore une fois des années que des associations, des parlementaires, des collectifs, des familles entières sont mobilisés pour faire face à ce qui est un véritable drame et scandale de notre pays. Alors que nous avons des exemples en Europe et dans le monde qu'il est possible d'agir, il est possible de réduire de manière drastique, d'éliminer ces violences sexuelles et sexistes.
Avant de vous quitter, Stéphane Troussel, de nombreux habitants de votre département, la Seine-Saint-Denis, n'ont pas les moyens financiers de partir en vacances. Qu'est-ce que le département a organisé pour ces personnes cet été? Il y a notamment cette piscine au pied des tours à Pantin.
Oui, bah, le département, pour ce qui le concerne, il a créé en 2020 le Bel Été, un peu avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec l'idée de se dire, en partant d'un constat simple, que 60% des habitants de la Seine-Saint-Denis ne partent pas en vacances, contre 40% en moyenne nationale. Et donc, lorsqu'on voit un épisode caniculaire comme celui-ci, bah, on a conscience qu'offrir une programmation estivale dans les domaines de la culture, du sport, des espaces ludiques, aqualudiques même, 100% gratuites dans nos parcs départementaux, c'est absolument nécessaire. Et donc oui, du 27 juin au 29 août, dans tous les grands parcs, dans les 8 grands parcs départementaux, il y aura des initiatives, des projets, des actions, de l'activité, et en particulier, parce que c'est le plus grand, 417 hectares, le parc départemental Georges Valmont, du 11 juillet au 2 août, c'est un peu, comment dirais-je, la pointe avancée de notre Bel Été, avec une programmation XXL, grande roue gratuite, plateforme aqualudique, plus de 50 activités sportives, une halle gourmande, du ciné en plein air, des concerts le samedi soir, avec un moment fort Méril le 11 juillet, le festival Métis à Valbon le 18 juillet, Soul King et Jungeli, les week-ends du 25 et 26 juillet, ça sera un week-end spécial Méditerranée, et donc le 2 août, DJ Abdel pour clôturer en musique, et donc encore un rendez-vous aussi le 1er août avec un artiste surprise qu'on révélera un peu plus tard, et dans tous les parcs départementaux, il y aura une programmation, alors pas forcément aussi XXL qu'à Valbon, parce que Valbon est le plus grand, mais il y aura des activités, du ciné en plein air, des courses d'orientation, des séances de lecture, du sport pour tous les âges, dans tous les parcs, au Saussay, à la Poudrerie, à la Haute-Île, à Jean-Moulin-les-Dillans et à l'île Saint-Denis comme à la Bergère.
Voilà, l'été sera notamment festif en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Stéphane Troussel.
Merci à vous.
Je rappelle que vous présidez le département de la Seine-Saint-Denis. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.